Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes. Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois d'octobre, c'est bien la tragédie, sous différentes formes, qui s'impose à moi dans les livres récits, des romans, mais qui ont l'allure de récits que je présente et qui se déroulent aussi dans différents pays du globe terrestre. Le premier, c'est le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius de Gaël Bellem chez Gallimard. Le deuxième, c'est « Les enfants du lac » de Ivar Léon Menger, Belfond Noir. Il y aura troisième livre remarquable, la suite inoubliable, justement. On ne peut pas l'oublier, d'Akira Mizubayashi. Le lire est un très très grand jour, paru chez Gallimard. On aura la musique de Jean-Sébastien Bach au violoncelle. Et puis après, on aura Homero, le fils caché de Christos Markogiannakis, une tragédie incroyable au cœur de la Grèce. Et puis la nourrice de Francis Bacon, là aussi découverte d'un grand peintre, Francis Bacon, par Mélis Besseri chez Gallimard, une auteure qui connaît très bien l'Irlande. Voilà, alors donc je commence, peut-être un sixième livre, on verra s'il y a du temps encore. Donc le premier livre, c'est « Le fruit le plus rare » ou « La vie d'Edmond Albius » de Gaël Bellem dans la collection « Continent noir » chez Gallimard. Au XIXe siècle, né à l'île de la Réunion, un garçon créole qui s'appelle Edmond. Ses parents aimeraient que leur fils grandisse aux abords des champs de canne à sucre, des rires pleins le cœur, l'esprit entièrement libre. Le malheur, car il y a un malheur, en décide autrement. D'abord, il fait d'Edmond un esclave. À cette époque-là, il y avait encore pas mal d'esclaves. Et dans la foulée, il va perdre ses parents, donc il sera orphelin. Alors après, pour un garçonnet analphabète, parce qu'il n'a pas été à l'école, la vie s'annonce infernale. Mais l'enfant un talent sans pareil, celui de déjouer les pronostics et d'avoir une mémoire d'éléphant. Il sera recueilli et élevé par un botaniste amoureux d'orchidées. Voilà, on retrouve les orchidées sur cette île, comme il y en a sur d'autres îles aussi. Cuba. Féréole Beaumont, il s'appelle ce botaniste amoureux d'orchidées, il s'appelle Féréole Beaumont et il vit à Sainte-Suzanne, sur l'île Bourbon. L'île Bourbon qui était, on parle encore de Rome, de l'île Bourbon, qui était l'ancien nom, donc c'est devenu l'île de la Réunion, ça a été décidé en 1848. Edmond est un prodige. Dès qu'il met les pieds dans un jardin, éduqué par Féréole qui est son petit papa, hein, voilà, et qui le considère vraiment comme ça, et puis ce sera réciproque aussi. Il y a beaucoup d'affection de Féréole pour ce jeune Edmond. En 1841, âgé de 12 ans, vif et rusé comme quatre, Edmond fait l'une des plus extraordinaires découvertes du monde, un nouveau fruit, voilà, sur cette île, l'orchidée, enfin, la vanille, c'est la vanille, il s'agit de la vanille. La vanille sera découverte avant au Mexique. Mais ici, sur l'île Bourbon, eh bien, on en cultivait des vanilles, mais il n'y avait pas de fruits. Donc, il va faire une découverte extraordinaire. Un nouveau fruit, un nouvel arôme, parce qu'il va réussir à toucher ce qu'il y avait, et puis à faire sortir le fruit, un nouvel arôme, le plus savoureux, le plus connu, le plus aimé qui soit, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on recherche la vanille. On aime l'utiliser pour des glaces ou d'autres choses. Oui, donc la vanille est bien une orchidée, vous le saviez peut-être. Moi, j'avais tendance à avoir autre chose qu'une orchidée. Et trouver même, sur l'île Bourbon, sera toute une aventure racontée dans ce roman « Le fruit le plus rare » ou « La vie d'Edmond Halébius ». Raconté donc dans ce grand roman rocambolesque, le fruit le plus rare qu'est la vanille. Et qui unit l'histoire, toute une histoire de ce fruit le plus rare, le Mexique, l'Espagne, les Espagnols qui vont aller au Mexique, qui vont ravager un peu le Mexique, se saisir de cette plante, mais ils la ramènent en Espagne, mais ils ne savent pas comment l'utiliser, trouver son fruit. Ce n'est que plus tard, la France et la Réunion. Alors voilà, autour d'un petit fruit pas comme les autres, voici dans ce roman de Gaël Bellem, Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Halébius. Une histoire vraie mais douce amère, parce que le héros, c'est délicieux, c'est envoûtant, mais Edmond va être affranchi et il doit choisir un prénom ou un nom. Et ce sera Edmond Halébius, d'où le titre de ce roman. Lui, créole, eh bien, analphabète en plus, il y aura des rivalités, des paternités, des gens qui vont s'approprier cette découverte fondamentale et qui vont s'enrichir sur le dos de Edmond Halébius. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu une tragédie, parce que sa vie terminera une vie fort modeste. Ça, c'était le premier roman que je voulais vous présenter. Le deuxième roman, Les Enfants du Lac, est un polar noir. Les Enfants du Lac. C'est d'Ivar Léon Menger, publié par Bellefond Noir. Né en 1973 à Darmstadt, en Allemagne, Ivar Léon Menger a été copywriter, désigneur, scénariste, réalisateur. Ses pièces radiophoniques comptent parmi les productions les plus écoutées de la plateforme Audio Audible. Les Enfants du Lac est son premier roman, mais vous allez voir, c'est plein de promesses. Voilà près de 16 ans que Juno, la narratrice de cette histoire, vit sur une île isolée du Nordland, avec père, mère et Boy, son petit frère. L'adolescente n'a que peu de souvenirs du Sudland, où elle est née. Il y a une plage, des parasols, des jouets à l'effigie de Mini. Ses parents ont dû fuir la mafia au péril de leur vie pour s'installer dans ce chalet sur cette minuscule île isolée du monde où nulle âme étrangère ne s'aventure jamais, à l'exception de Hall. Hall, c'est le facteur. Est-ce un oncle ? On l'appelle un oncle. Il vient une fois par semaine. Des intrus les recherchent. Des gardes tentent de les protéger à distance. Mais jamais Juno et Boy ne pourront quitter ces lieux. Mais les deux enfants grandissent et ils rêvent d'interdits. Ils questionnent le monde qui les entoure et leur échappe. Qui y a-t-il plus loin ? Qu'est-il arrivé à Ruth, leur sœur enterrée sur la rive ? Qui sont ces intrus ? Sont-ils si dangereux que ce qu'en disent leurs parents ? Bien des mystères qui préoccupent les deux enfants. Mais une nuit, un inconnu débarque sur l'île. Juno s'approche, attirée par ce sourire, ses boucles brunes, ce regard d'ange. Le garçon prétend qu'il est venu la sauver, qu'il la cherche depuis des années, que le vrai danger est là, sur l'île. Alors, est-ce que c'est vrai ? Ça, vous le découvrirez, bien sûr. Est-ce que c'est un mirage ? Non. Vous le découvrirez en lisant ce très bon roman, « Les enfants du lac » d'Ivar Léon Menger. Pourrait-il dire vrai ? Pourquoi Juno, qui veut apprendre à nager pour aller sur l'autre rive ? C'est la tentation d'aller sur l'autre rive. En même temps que le doute et les difficultés, la mort et son cortège d'horreur se rapprochent de Juno et de Boy. Et peut-être aussi des parents. À Juno, il lui faudra avoir un cœur bien accroché pour s'en sortir vivante de cette grande aventure, où l'on découvre que le Nordland correspond à la Suède et le Sudland à l'Italie. À vous donc de le lire pour en savoir plus. Et je passe au troisième roman, qui est quelque chose d'inoubliable. D'ailleurs, ça s'appelle « Suite inoubliable ». C'est d'Akira Mizubayashi, qui vient de paraître chez Gallimard. Pour moi, lire Akira Mizubayashi, c'est déjà le troisième, au moins, oui, livre que je lis de lui. Le lire est vraiment un très grand jour, car c'est un écrivain franco-japonais merveilleux. En lui, ça c'est le personnage principal, qui était musicien, qui parle. En lui, dit-il, la musique parlait français depuis qu'il l'avait vécu en France, en se livrant à la conversation et même à l'amour avec Hortense Schmidt. Et il avait la sensation d'interpréter un duo avec elle. Sensation qu'il ne connaissait pas lorsqu'il s'exprimait dans sa langue maternelle, le japonais. Voilà. C'est une belle approche, un beau thème, que de penser que le français, la langue de l'amour et de la musique, pour lui, eh bien, c'est le plus beau langage. en particulier à partir de 1945, lorsque son pays natal devient un pays fou, en guerre absolue face au monde. Alors, on alterne dans cette suite inoubliable d'Akira Mizubayashi, on alterne des parties différentes. Il y a bien un prélude dans cette suite de Jean-Sébastien Bach qui est mis à l'honneur dans ce roman. Il y a un prélude qui se situe en 1934-1945. Il y aura suivi d'une allemande en 1945 avec la mort du musicien. Une courante en 2016, donc voilà pourquoi je vais parler de Pamina. Une sarabande en 2016. Un menuet en l'honneur de un peu de Jean-Sébastien, de Mozart, un menuet, 1 et 2, 1945-1946. Et pour finir, une gigue en 2017, qui est aussi la fin du roman. Donc, dans la deuxième partie, il y a Pamina. Pamina, qui est une jeune luthière brillante, digne petite fille d'Hortense, qui avait exercé le même métier au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Embauchée dans l'atelier d'un fameux luthier parisien, Pamina se voit confier un violoncelle très précieux, un Matteo Goffrier, achevé en 1712 à Venise. En le démontant pour le réparer, la jeune femme découvre dissimulée dans un tasseau une lettre qui l'amènera sur les traces de destin brisé, d'un amour brisé, de destin brisé. Il y en a eu d'ailleurs plusieurs destins brisés de ces Japonais qui ont dû partir à la guerre et qui sont morts à la guerre. Des mots écrits à la fois pour résister contre l'oppresseur et pour transmettre l'histoire d'un grand amour. Celui donc du musicien de Ken Mizutani et de Hortense. Par cette lettre et ces mots, elles auront franchi les frontières, cette histoire auront franchi les frontières et les années. Les histoires entremêlées des personnages d'Akira Mizubayashi, tous habités par la même passion mélomane, celle de Jean-Sébastien Bach, mais on parle aussi de la musique de Pablo Casals dans ce beau roman, dans ce grand beau roman. Tous pointent, chacune à sa façon, l'horreur de la guerre qui brise toutes ces vies musicales ou autres. Alors il y a nota bene parce que un poème qui parle des ombres, car on parle des ombres, les gens qui meurent peuvent n'être que des ombres. Alors aux ombres, dit ce poème, aux ombres pour qu'elles reviennent, pour qu'elles revivent et pour qu'elles parlent, enfin. Et donc c'est bien ce qui se passe dans ce très beau roman, les ombres se mettent à revivre et à reparler grâce à la musique classique et à l'amour. Ken Mizutani, musicien à Lausanne, oui, son professeur Maurice Marechal, qui l'a élevé à Paris, qui s'est occupé de lui à Paris, l'a poussé à se présenter au, au concours international de violoncelle à Lausanne en 1939 et le remporta grâce à l'incroyable interprète du concerto d'Elgar. Elgar, qui était mort en 1918, je n'ai pas retrouvé le concerto d'Elgar, mais j'ai bien une musique, voilà, où l'on entend ce violoncelle en solo de Jean-Sébastien Bach. C'est vraiment très beau, et c'est donc parce qu'il y avait des finales, il y avait plusieurs concurrents pour ce concours de Lausanne, et donc il a interprété aussi ça, et donc étant le lauréat de ce concours de Lausanne en 1939, il a eu non seulement une somme d'argent importante, mais il a eu aussi pendant 7 années le privilège de se servir d'un violoncelle d'une très grande valeur fabriqué en 1712 par Matteo Goffrilaer, grand luthier vénitien qui a fait aussi des violons. Il devra, selon son contrat signé, le restituer avant fin juin 1946 au plus tard. Et c'est Hortense, qui se trouvait au Japon, qui le fit, lui étant mort à la guerre en 1945. Et elle fera une copie fidèle, tellement fidèle, de ce violoncelle extraordinaire que on va parler de 2 instruments jumeaux de qualité et de couleur. Ceci afin de conserver, d'avoir, elle, puisqu'elle avait dû restituer le premier violoncelle, de pouvoir conserver chez elle l'ombre violoncelle qui représentait l'ombre de Ken Mizutani, son amant, de qui elle aura un fils, Léon, le père de Pamina, que je vous ai présenté, qui est cette jeune luthière. Donc vous voyez, on revient, il y a un beau cercle qui se passe, un beau cycle ancien et nouveau, et puis les relations qui interfèrent entre l'une et l'autre. Un roman vraiment d'une force incroyable, une tragédie, mais aussi une espérance indéniable. La musique l'emporte sur la guerre. Voilà ce beau roman de Akira Mizubayashi, Suite inoubliable, qui vient de paraître chez Gallimard. Alors, je parle aussi d'un autre livre un quatrième qui m'a passionné. Parce qu'il a fait vibrer en moi des choses inédites. Voilà. Ça s'appelle Homero. Je découvre que Homer, que c'est le prénom de Homer. On parle de Homer dans la mythologie grecque. Homer, eh ben Homero, il l'appelle ce personnage Homero, le fils caché de Christos Marco Giannakis. 46 pages quand même, donc un grand, grand roman qui vient de paraître chez Plon. Et j'avoue que je ne connaissais pas Christos Marco Giannakis, qui est pourtant un Grec qui vit à Paris depuis longtemps. Et dans ce roman, il y a d'ailleurs dans ce roman en couverture, on voit Maria Callas avec un foulard, et puis son amant, Aristote Onassis. Donc, s'il le met, c'est qu'il a quand même eu l'autorisation de le faire. Donc, écrivain grec installé à Paris, c'est une histoire incroyable du fils caché de Maria Callas et d'Aristote Onassis. Pourtant, on y croit avec ferveur, tant il y a de détails sur la vie de Maria Callas, sa souffrance aussi, sa gloire et sa souffrance. Et d'Aristote Onassis, qui étaient tous deux mariés quand ils se sont rencontrés et aimés. En Grèce ou à Athènes, le personnage Homero est mort deux fois, dit-on. Une première fois lors de sa naissance, avec un certificat de décès qui l'atteste. Une seconde fois, ses 60 ans passés, alors qu'il est un peu à la dérive, à vouloir percer ce mystère de ce fils caché. Pourquoi a-t-il été caché avec un papa et une maman qui l'ont vraiment beaucoup aimé, porté? Et puis un parrain, il y avait un parrain, quelque part, qui au moment de Noël donnait des cadeaux, de très très beaux cadeaux, et puis qui surveillait ses progrès scolaires. En effet, le 30 mars 1960, donc on est dans les années 1960, et puis après, une femme met au monde un enfant prématuré. Il s'agit de Maria Callas. Le père est Aristote Onassis. Le nouveau-né déclaré mort dans les heures qui suivirent. Il a même été enterré. Il y a une tombe. Un cimetière où on voit une tombe où il serait enterré, et s'il avait survécu, pour éviter un scandale. Donc il fut pris en charge par un papa et une maman, qu'il aimait vraiment. L'auteur de ce roman envisage de suivre toutes les traces à Milan, à Paris, où on sait que, à Athènes, à Milan, à Paris, à Athènes, à Paris, où on sait que Maria Callas finira ses jours, à Rome aussi, et en Amérique, à New York en particulier, de traces sur ses illustres parents et leur famille, parce que c'est ça, il y a beaucoup, Homero va tirer au clair une saga familiale foisonnante, parce que c'est tissé de mensonges, de manipulations et de tromperies. C'est pour ça que j'ai cherché à dire que que c'est le thème de ce mois d'octobre, c'était la tragédie, une tragédie à la fois grecque, moderne et grecque, une histoire jusqu'ici inconnue, un texte troublant où se conjuguent la fiction, mais aussi l'histoire. Il y a tant de détails, la rencontre du polar moderne et de la tragédie grecque. Hélas, dans sa plus belle expression, ça je peux vous le dire, avec Homéro, le fils caché, de Christos Marcos Yanakis, que vous pouvez lire vraiment, pour retrouver un peu ses biographies, ses mélanges, ses tromperies aussi. Voilà pour le quatrième roman. Alors j'ai un cinquième livre qui est pour moi important aussi. Un cinquième livre, c'est La nourrice de Francis Bacon, de Mélisse Bessery, qui est paru aussi chez Gallimard. Ce que l'on sait de Francis Bacon, un peintre britannique né en 1909 à Dublin, mort à Madrid en 1992, il a donc eu une assez longue vie. Et il définit son art par la déformation de l'image humaine, créant une esthétique de l'angoisse, exprimant le malaise des êtres avec des déformations violentes et par l'acidité des couleurs, de ses couleurs. Il eut une grande influence sur la nouvelle figuration internationale après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce roman de La nourrice de Francis Bacon, de Mélisse Bessery, qui est une spécialiste de l'Irlande, eh bien, on a surtout toute la première partie, toute l'enfance terrible, mais aussi Londres. Et puis, il vous fait voyager en Allemagne, à Paris surtout, visiter les grands musées parisiens, grâce à une amie qui parle anglais et qui va pouvoir lui servir de guide. On retrouve toute cette époque-là, une époque très très importante, de formation très importante. Alors, on la découvre, cette période-là. Dans ce roman de Mélisse Bessery, qui connaît très bien l'Irlande et ses écrivains ou artistes, elle imagine ce personnage méconnu et pourtant central de la vie de Francis Bacon, la bien nommée Jessie Lightfoot. Dite par la suite Mani, qui le protégera toujours de son tyran de père. Oui, parce que le barbare, le père, le capitaine des enfers, le capitaine Bacon, à la retraite, ne s'intéressait qu'à la chasse et à ses chevaux. Et il trouve que son enfant, le dernier, Francis, est un petit chétif, voilà, qu'il n'a rien de conquérant. Et il va faire de son enfance un enfer, comme de ses pires excès. Alors elle va, cette génie Lightfoot, dite Mani, elle va donc le protéger de son tyran de père, et puis l'accompagner lorsque, après 15 ans, il sera éjecté de la famille et qu'il ira à Londres. Et donc, il va naviguer d'un endroit à l'autre à Londres, et elle sera toujours là pour lui envoyer des lettres ou même pour habiter avec lui et s'occuper de son intérieur. Voilà. Alors qu'il a tendance à faire la fête, à aller à droite, à gauche, à découvrir la liberté de la ville. Alors la tendresse de cette Nanny venue des Cornouailles contraste avec les violences que subit très tôt Bacon et apporte une couleur inédite à la palette sulfureuse du peintre. Au-delà de l'humour et de la gouaille inégalable de cette femme extraordinaire, confrontée au monde interlope des artistes, avec, bon, comme je le redis, l'alcool, la drogue, la prostitution, Mélisse Bessery nous donne à voir, voilà pourquoi c'est un livre précieux que ce La nourrice de Francis Bacon, il faut vraiment le conserver, le relire, parce qu'il y a même, je ne sais pas, elle ne donne pas ses sources, Mélisse Bessery. Mais je suppose que s'il y a des moments où elle fait parler le peintre sur sa façon d'envisager les tableaux, les peintures, il y en a même une, la dernière, qui existe bien, vers Georges. La peinture de Georges. Tu as fait le tour de la violence, la traversée, t'en es guéri, c'en est fini désormais, fin des tragédies. Il ne te reste qu'à leur rendre hommage, à tous ceux qui t'ont hanté, jusqu'à ce que ta peinture se tarisse, que tes os craquent à leur tour, deviennent poussière, se collent à son dernier tableau, à ta peinture encore humide, vivante. Voilà. Avec cette fameuse peinture que l'on peut voir dans les dictionnaires, souvenir de Georges d'hier. Voilà, arrête Francis, relève-toi, tu ne peux pas savoir. Personne ne peut prévoir ces choses-là. La mort choisit ses proies, comme le renard ses poules. C'est... Voilà, parce que cette Nanny le protégera toujours, même parce que elle est devenue âgée, elle va mourir, je dirais, simplement, l'attendant, là. Mais pour lui, elle n'est pas vraiment morte. Elle deviendra sa conscience. Donc, même après sa mort, elle cherchera toujours, et dans ce livre-là, il y aura toujours son expression « Arrête Francis, relève-toi, tu ne pouvais pas savoir, personne ne peut prévoir ces choses-là, la mort choisit ses proies comme le renard ses poules, c'est comme ça. C'est vrai que son allure de gros costaud était plus que pompeuse, que trompeuse, ce garçon, ce Georges d'hier. » Mais qui sera son grand tableau. Voilà ce que je voulais dire. Oui, parce que il y a eu une histoire d'amour réciproque entre justement cette nourrice et Francis Bacon. Dès qu'elle le voit enfant marchant à quatre pattes, elle dit « c'est un enfant merveilleux ». Je vous assure, j'en ai vu passer de drôles. Il n'y en a pas deux comme lui, pas un qui arrive au talon de ce petit. Il ne fait rien comme tout le monde. C'est vrai, il a toujours une idée derrière la tête, toujours une parole rusée. Il se passionne pour les belles choses. Il aime qu'on l'aime. Ben oui, voilà, c'est le drame, c'est la tragédie. Il aime qu'on l'aime, c'est tout, c'est ça que son père ne comprend pas, ne comprendra jamais. Il voudra même le poursuivre de sa fureur lorsqu'il sera à Londres, mais il n'y arrivera pas. Voulant le soumettre à coups de fouet, seule Nanny le protégera toujours et même après sa mort. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'ils s'écrivent de nombreuses lettres quand il sera à Paris, qu'il va visiter Paris ou en Allemagne, ben, il envoie toujours des lettres à sa Nanny. Donc c'est vraiment son point fort que cette Nanny, que cette nourrice, qui a son franc-parler, mais justement, c'est ce que Francis admire en elle, conserve d'elle. Voilà pour ce roman qu'il faut lire aussi parce que on comprend beaucoup mieux sa peinture, l'angoisse de sa peinture, qui était l'angoisse de son enfance. La nourrice de Francis Bacon par Mélisse Bessery chez Gallimard. Alors il me reste encore un peu de temps et donc je vais parler d'un sixième livre, un peu inédit, mais qui se passe en Angleterre, qui revient sur l'Angleterre. Avec ce récit, cette autobiographie intitulée « Rédemption » de Mike Fleming, qui vient de paraître chez MAM et qui a un titre qui se déroule en Angleterre. Dans ce récit, je retrouve la violence, la drogue, le deal et le crime, l'addiction que j'avais présentée l'an dernier avec deux grands romans, deux séries, l'une américaine, l'autre française, qui se déroulent tous les deux à Los Angeles. Ici, on est en Angleterre, donc bien proche de chez nous. C'est la vie de ce pasteur qui a bouleversé l'Angleterre. Après avoir caché un traumatisme profond, un viol, alors que sa jeunesse était pleine de promesses, et le décès de sa mère, Mac Fleming a caché son désespoir derrière la violence, la drogue, le deal et le crime. « Mon premier acte de violence, dit-il, s'est produit juste aux portes de l'école. Le garçon était plus grand et plus fort. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais l'esprit de la mort, ancré au plus profond de moi. Et j'aimais ça, dit-il. » Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de grave, de tragique même. Avoir, étant enfant à l'école, avoir déjà l'esprit de la mort ancré au plus profond de moi. Il me semblait avoir passé un pacte avec le diable. Rien ne pouvait m'atteindre. Devenant un personnage, il s'est donné des noms, d'ailleurs des noms différents, pour travailler seul dans différents endroits. Il devient Mad Mike. Mad Mike, voilà. Travaillant seul et loin de chez lui, mais il revient chez lui, c'est-à-dire à Burnley. Mais un jour, donc, il s'est enrichi, volant, pillant. Mais un jour, les choses vont peu à peu changer. Grâce à la prière, ça c'est une chose un peu particulière, singulière, tout à fait singulière, parce que même s'il ne croyait pas vraiment, il avait quand même envie de prier Jésus. Et son copain, comme il l'appelle, l'Esprit Saint. Et il va découvrir que, en les priant, son père avait par exemple mal quelque part, eh bien, il lui dit prie pour. Et en priant pour ça, eh bien, effectivement, son père n'aura plus mal à son membre. Donc, ses prières sont écoutées. Donc, il y a un cheminement là qui est vraiment tout à fait singulier. En lui, il les découvre. Oui, Mac Fleming a eu la révélation de l'amour infini de Dieu. Même pour lui, alors que c'est un criminel, sauveur de tous, ce fut une révélation extraordinaire, un détonateur, le début d'une rédemption, d'où le titre de ce livre, de ce document, de ce témoignage. Au fil des pages de ce livre, de ce témoignage hors du commun, le pasteur, il est devenu pasteur ordonné par un évêque en mars 2019, le pasteur Mike Fleming, nous livre l'histoire exceptionnelle qui l'a conduit jusqu'à la création de l'église de la rue en Angleterre. Pourquoi l'église de la rue ? C'est parce que il avait fait un peu le tour des églises, mais il n'avait pas trouvé celle dont il avait la mission, par le Christ et l'Esprit Saint, de créer l'église de la rue. En particulier, ça a été très difficile pendant le confinement. Vous savez, en Angleterre, beaucoup de gens sont morts solitaires et plus de misère encore que du Covid lui-même en Angleterre. Grâce à un ami, pasteur anglican, il a pu avoir une église, un lieu, une église, et pouvoir récolter des denrées et pouvoir les partager avec les gens qui sont dans la rue. Voilà. Voilà pourquoi son église s'appelle l'église de la rue, parce que s'intéresser d'abord à ceux qui sont en addiction, sans abri, dans la rue, et en addiction, et même qui se suicident, dans la solitude. Alors cette vie, désormais cette vie lumineuse, qui a bouleversé des millions de personnes aux quatre coins du monde, grâce à de bonnes émissions de la BBC. C'est vrai, il a rencontré de grands journalistes, je dirais, des gens bien, qui ont su le présenter, et il a été vu et écouté et suivi. Donc il a pu avoir encore davantage de choses pour pouvoir le donner, de dons, pour pouvoir fonder son église de la rue avec un local qui était modeste au départ, mais qui a pris de l'importance, qui a pu s'agrandir un peu comme une abbaye moderne, voilà, pour accueillir les sans-abri nombreux et les personnes sous addiction qui sont à la recherche de quelque chose dans leur vie d'une qualité. Et puis même, il lut, alors donc ça a attiré l'attention de tout le monde sur lui, et il lut une visite incroyable, impossible. Le prince William a voulu le voir en vrai avec son épouse, et donc et le prince William dit: il est impossible de ne pas être profondément ému par ce parcours hors norme, rédemption chez Mam de Mac Fleming. Voilà. Une autobiographie extraordinaire. C'est vrai que j'aurais sans doute à parler aussi par la suite de romans comme ça, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Eh bien, je vous dis à bientôt, bonne lecture, et puis portez-vous bien, c'est vrai, on peut dire ça, avec ces changements de temps. Et puis, au mois prochain, au revoir.